Bonjour, nous sommes le lundi 17 octobre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et vous avez raison, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population.
La relève, c'est l'émission qui fait dialoguer demain, aujourd'hui et hier. Le principe est simple, deux invités qui partagent la même passion, le même métier, le même engagement. L'un débute, l'autre a déjà fait ses armes. Aujourd'hui, nous recevons une soprano et un ténor du barreau et une toute petite fille.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population, c'est ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, Daria Blanc, Jean-Baptiste Souffron.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour.
Et bonjour Olympe. Nos auditeurs les plus perspicaces, et ils le sont, l'auront compris, vous êtes l'un et l'autre avocat. Avec vous, nous allons parler du droit, de votre métier, de celui que vous rêviez de faire et de celui que vous faites. Daria, vous faites du contentieux, du droit et en droit des affaires, c'est ça?
Tout à fait. Je fais des litiges, je fais des procès.
Et vous, Jean-Baptiste?
Moi aussi, en fait, et également pas mal de conseils.
Voilà.
Daria Blanc, vous vous souvenez de la première injustice que vous avez rencontrée?
Alors là, c'est probablement lié à mes parents, c'est probablement lié à la nourriture. Je ne m'en souviens plus très bien.
Et vous aussi, on vous a privé de crêpes.
Probablement, très probablement. Donc je suis très jalouse d'Olympe.
Mais cette question, bien sûr, c'est pas à cause du cliché de l'avocat qu'on imagine toujours prêt à défendre la veuve, l'orphelin. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à devenir avocate?
Bon, très sincèrement, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je n'ai pas vraiment eu cette envie de défendre la veuve et l'orphelin. C'était plus le côté intellectuel de pouvoir défendre quelqu'un, de devoir présenter des arguments, de défendre ses arguments devant un juge. Et puis même, intellectuellement, d'un dossier à l'autre, changer complètement ma perception des choses. Et puis, c'est l'adrénaline quand j'ai découvert le contentieux. C'est ce côté-là qui m'a attirée.
Et vous, Jean-Baptiste?
Ah, moi, c'est une énorme erreur d'orientation, en fait. J'étais dans des endroits où on n'était pas du tout informé sur les métiers qu'on pouvait exercer après le bac. Et en fait, au début, je voulais peut-être faire une formation d'ingénieur en informatique ou quelque chose comme ça, mais mes parents ne comprenaient pas très bien à quoi ça pouvait servir. Et puis, je n'avais pas envie de faire une école de commerce parce que j'étais persuadé que quand on fait une école de commerce, c'était pour devenir vendeur en magasin et que ça ne m'intéressait pas non plus. J'étais aussi mal informé que ça. En m'inscrivant un peu par hasard, en discutant avec des gens, je me suis inscrit à la fac de droit. Et là, j'ai eu une espèce de prise de passion parce que immédiatement, on est dans des débats qui sont à la fois très ouverts et en même temps très cadrés. Les possibilités sont immenses à la sortie. On peut faire beaucoup de choses différentes.
Le droit mène à tout à condition d'en sortir.
Exactement, c'est apparu comme une évidence, c'était une bonne idée en fait.
À la première année de la fac de droit, on n'apprend pas par cœur le code civil, le code pénal, et ça c'est intéressant.
Je ne l'ai pas trop appris par cœur.
Oui, non. Moi non plus. Hein. Non, on ne peut pas dire ça. Au contraire, on a des cours qui sont relativement variés. Il y a des cours d'économie, il y a plein de choses. Il y a des personnalités qui sont toujours fascinantes. Les professeurs de droit en ceci de particulier qui sont souvent... extrêmement enthousiastes et amoureux de leur profession. Ils ont à communiquer beaucoup de choses. Les autres étudiants sont très, très nombreux au début, puis de moins en moins au fur et à mesure. Mais eux aussi ont beaucoup de choses à raconter et sont souvent des personnalités.
Est-ce que, parce que il se trouve que moi aussi, j'ai fait droit, en fait. Et est-ce que maintenant, il y a toujours cette merveilleuse... cette sorte de numerus clausus à la fin de la première année où finalement seuls 4% de la population des étudiants passe en deuxième année?
Ce n'est pas tant un numerus clausus que la différence. En fait, quand on rentre dans une fac de droit, on rentre dans un milieu tellement différent qui n'est tellement pas habituel par rapport au lycée que la raison pour laquelle les gens partent, c'est pas tant parce qu'il y a un numerus clausus que parce que c'est très compliqué, c'est très complexe, c'est complètement autre chose, c'est une façon de penser qui est très différente de ce qu'on fait d'habitude. Et donc, en fait, la sélection se fait un peu naturellement, dans le sens que les gens, s'ils n'aiment pas du tout cette façon de penser ou cette façon qu'on nous façonne, eh bien, ils partent. Donc c'est ça qui n'est pas évident.
Et quand on commence sa première expérience en cabinet, on se dit qu'en fait, on a été bien façonné par la fac ou c'est compliqué?
Disons que la pratique, à partir du moment où on rentre véritablement dans un cabinet d'avocat, on comprend pourquoi on a eu tous ces cours, pourquoi est-ce qu'on nous parlait des obligations de faire, obligations de donner, toutes ces choses-là qui étaient très, très, très théoriques pour nous et qui, en réalité, ont une vraie utilité pratique. Et c'est là que ça devient véritablement intéressant. Mais on voit qu'on est bien formé.
L'un comme l'autre, quand vous êtes arrivé, si j'ai bien compris, à la faculté, vous ne saviez pas que vous seriez avocat. C'est à quel moment que ça s'est décidé ? Jean-Baptiste.
Moi, en fait, j'ai très rapidement commencé à exploiter ce que j'apprenais à la fac pour être utile dans des assos, dans des projets. En fait, on se rend compte vite que les cours qu'on a sont peut-être théoriques sur le papier, mais dès qu'on se connecte, il y a plein de gens qui en ont besoin tout le temps.
Le meilleur copain vient vous voir, j'ai un problème avec mon assurance.
Vient vous voir,
c'est aussi caricatural que ça.
Vous avez des associations d'aide aux sans-papiers, par exemple. Moi, j'avais monté une association pour défendre les gens qui téléchargeaient sur Internet. J'avais eu l'occasion d'aider des gens qui faisaient du logiciel libre et qui ne comprenaient pas forcément les tenants, les aboutissants juridiques, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement concret, assez simple, quand vous avez, vous, les cases en tête, mais qui est complètement incompréhensible, difficile à comprendre pour les gens qui n'en ont pas l'habitude. Du coup, vous vous sentez vite utile et c'est très, très agréable. Moi, j'encourage tous les étudiants qui sont en droit à exercer en fait leurs droits à côté sans forcément attendre de commencer à aller d'abord en cabinet ou en entreprise. Il y a plein d'assos qui ont besoin d'un coup de main, il y a plein de gens qui ont besoin d'un coup de main, c'est facile de les contacter et de se mettre un peu à leur service et puis ils sont tout le temps en galère pour trouver des gens qui peuvent les aider.
Et donc le moment où vous décidez de devenir avocat, c'est quand ?
En fait, c'est à force d'envoyer des dossiers à des avocats. C'est-à-dire que vous allez aider des gens, vous allez un peu leur expliquer leur truc, puis à un moment où votre compétence s'arrête et vous savez que là, il faut passer au registre du contentieux. Donc à ce moment-là, vous passez la main à un avocat. Donc vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis à la fin, vous dites, moi j'aimerais bien le faire moi-même.
Surtout, vous dites, c'est cher ?
Non, pas trop. on peut pas dire ça, non.
Non.
Surtout en France. Donc
c'est un mythe que l'avocat est cher ?
Oh oui. Aujourd'hui, c'est pas un problème. L'accès à la profession est pas si difficile que ça. Il y a l'aide juridictionnelle, En France, actuellement, on n'a pas trop de difficultés à accéder à un droit de qualité. Voilà. Y a toujours des problèmes, mais je dirais que c'est peut-être même plus des problèmes d'organisation que des problèmes financiers ou quelque chose comme ça.
Et alors vous, Daria, à quel moment vous avez voulu devenir avocat ? Vous avez aidé vos amis
Alors effectivement, j'ai eu cette phase où j'ai aidé mes amis, mais en fait, j'ai su que je voulais être avocat il y a très peu de temps, après avoir prêté serment.
Ah oui, donc vous avez fait toutes ces études très compliquées sans être sûr de vous.
C'est ça, en fait, je faisais mes études, je suis un peu rentrée dans le droit par défaut, parce qu'on me disait, mais ça ouvre toutes les portes, et puis ça forme bien, et puis c'est chouette, et c'est bien. Après, j'ai fait mon premier stage, ça m'a énormément plu, où justement j'ai vu le côté concret de toutes ces choses théoriques et de ces cases. C'est exactement ça en fait, ce sont des cases de réflexion, de méthodologie qu'on applique et qui sont assez intéressantes et assez... c'est ça, c'est assez prenant. Et puis en fait, j'avais une vie un peu en parallèle et pendant très longtemps j'ai hésité entre en fait, l'entrepreneuriat et le fait de devenir avocat, et c'est en découvrant véritablement le contentieux, pas pratiqué en stage mais pratiqué par moi-même, où c'est moi qui vais plaider des dossiers et gérer des dossiers en entier. Voilà, là ça a été une révélation, mais c'est venu très très tard.
Qu'est-ce que vous aimez dans le contentieux là ? Parce qu'a priori c'est gérer un conflit, c'est trouver une solution.
C'est ça, et puis c'est surtout le côté où quand un client vient vous voir pour du conseil, c'est pour dresser un contrat, donc il vous donne que les informations qu'il a envie de vous donner. Quand il vient vous voir pour un conflit, il vous donne beaucoup plus d'informations, vous rentrez beaucoup plus dans son business justement, vous l'assistez beaucoup plus dans ce qu'il fait, dans son développement, dans la gestion de ses crises. Donc ça c'est extrêmement intéressant par rapport au client, et nous par rapport à notre métier, ce qui est chouette c'est qu'on se retrouve à défendre le point de vue de quelqu'un qui ne sait pas forcément l'exprimer. Et c'est ça qui est assez passionnant.
Quand vous dites que vous avez hésité entre avocat et entrepreneur, tous les avocats ne sont pas en cabinet, il y en a beaucoup qui sont en profession indépendante. Finalement, avocat, c'est être un peu aussi entrepreneur, en fait.
De toute façon, oui, déjà parce qu'il faut avoir, un certain sens commercial, quand même. C'est un peu obligatoire.
C'est Olympe qui participe.
Olympe.
On a un participant un peu...
Oui. Donc, un sens commercial effectivement, parce que les clients.
Non, et en fait, il faut être capable de créer son activité, de la gérer.
Ah, bonjour Olympe.
Tu cherches ton doudou ?
Oh
C'est aussi ça, gérer un client.
Exactement, il faut savoir. Bah, typiquement, ça fait partie des règles d'organisation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Et savoir un peu mettre la limite entre les deux, ce que personnellement, je ne sais pas faire.
Et vous, derrière, vous avez des enfants ou pas?
Non, pas encore. Voilà.
Est-ce que, par exemple, on sait que les femmes qui commencent une carrière, etc., ont souvent un frein qui est le fait d'avoir leur premier enfant? On sait que le premier enfant est souvent un frein à la carrière des femmes.
Bah, disons que c'est une question de... on y pense forcément, parce que quand on démarre sa carrière d'avocat, bien, quand on démarre, on a entre 24 et 27 ans en fonction du temps qu'on a pris, si on a une vie parallèle. Et souvent, effectivement, on réfléchit. Non, c'est pas véritablement un frein, parce que maintenant, le barreau de Paris, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, a prévu. Donc, on a maintenant un congé maternité. C'est super.
Mais dites donc, ça serait pas une évolution du droit social?
Si, c'est incroyable. Alors, il y a pas de droit social pour nous.
Oui,
on
je
en
sais.
Fait, mais nous, on n'est pas soumis au droit social.
Voilà.
Mais non, effectivement, on réfléchit forcément, parce que. C'est le moment, enfin, on développe sa carrière. À terme, par exemple, moi, je souhaiterais avoir mon propre cabinet ou devenir associée dans un cabinet. Donc forcément, je réfléchis au délai. Et c'est inévitable parce que ça prendra du temps, parce que c'est normal que je prenne du temps pour ma famille en même temps que j'aimerais développer ma carrière.
Maintenant, un truc qu'on peut remarquer, c'est que cette question se pose pour beaucoup d'autres professions. Et moi... Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs métiers un peu différents et j'ai jamais... Enfin, en revenant au métier d'avocat récemment, j'ai vraiment pas le sentiment que ça soit plus difficile qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est plus seul, forcément, parce que de toute façon, la grande qualité de l'avocat, le principal critère pour être avocat, c'est d'aimer l'indépendance. Donc forcément, aimer l'indépendance, ça veut dire qu'il faut savoir faire les choses un peu seul. Mais les gens qui sont en grande entreprise, dans des grands groupes, les gens qui sont start-upers, les gens qui sont salariés, en fait, ça n'a pas l'air plus simple non plus pour eux de réussir comme ça à organiser leur vie professionnelle et leur vie personnelle, et notamment pour les femmes. On n'a pas ce sentiment-là. Après, c'est une question de toute façon que tout le monde doit se poser au bout d'un moment et qui est très difficile. Mais ce n'est pas plus dur pour les avocats. Ça n'a pas l'air plus dur. Mais peut-être je...
Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi, il fait peur, mon pays. Vis ma vie de chômeur, je ne suis pas au meilleur. Y'a plus rien qui me tient, c'est la crise, toi t'es bien. Méprise mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on prend de haut, comme on se sent de trop. On attend le Messie, il est là. Tu vois pas, j'entends le bruit des bottes. Oui, mais j'ai pas l'antidote, c'est le prix. Charrie, c'est plus l'heure. Revoici nos censeurs. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut. On est où? Plus chez nous. Ferme-la pour une fois. Tu peux t'attendre au pire. Les attentats, les martyrs. Qui dit vrai? Et après, faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé.
mal, vis ma vie, avec ce refrain, faudrait pouvoir se parler ou balancer un pavé. C'est un peu le métier d'avocat.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Jean-Baptiste Souffron, vous aimez le métier d'avocat parce que vous avez fait plein d'autres choses dans votre vie. Vous avez...
Oui,
vous avez...
si j'y reviens, c'est que j'aime ça. Oui, bien sûr, moi c'est... j'adore le métier d'avocat. La principale chose qui est agréable dans le métier d'avocat, c'est ce que j'ai dit jusqu'avant, c'est que c'est l'indépendance. On est tout le temps face à des situations différentes. On est seul, mais ça veut dire aussi qu'on est avec soi-même. Donc on peut réfléchir, aborder les choses, et puis on aide les gens concrètement. Quand on a des résultats, honnêtement, c'est quand même génial. Les gens sont reconnaissants, on voit ce qu'on a réussi à faire quand on arrive à sauver une entreprise, quand on arrive à faire en sorte qu'un salarié soit correctement indemnisé après qu'il ait été licencié n'importe comment, ou simplement quand on arrive à des gens à leur éviter d'avoir un procès. Alors qu'ils se seraient peut-être déchirés et entretués, finalement non, après avoir passé un peu de temps, on va trouver un arrangement et puis on leur fait gagner à tous beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Non, c'est vraiment un métier de ce point de vue-là où on se sent très bien parce que ce qu'on fait est toujours utile.
Est-ce que justement la culture de l'arrangement, avant procès, etc., qui n'était pas la culture française qu'il devient, qui semble un petit peu, je dirais pas... influencé par les États-Unis, mais vous connaissez en tant qu'avocat, vous avez toujours le client dans le prétoire qui va dire objection, votre honneur. Voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose en fait ? Est-ce que le droit change au fur et à mesure beaucoup ces derniers temps ?
Surtout en fait cette dernière année, de mémoire, c'est en 2015 qu'il y a eu une réforme, ou peut-être que je me trompe, 2014, en tout cas depuis un an ou deux ans, on a l'obligation de tenter des démarches amiables avant de commencer un procès. Ce qui est très positif, parce que quand on est face à quelqu'un de très procédurier, on aimerait lui rappeler qu'un procès, ça dure longtemps, c'est de l'énergie, c'est du temps, ce n'est pas forcément de l'argent récupéré à la fin. Et donc, effectivement, cette démarche amiable, on la développe et on l'encourage. Ce qui nous permet également de libérer un petit peu les juges, très très peu. Mais en tout cas, effectivement, ça commence à faire partie de la culture.
Mais il y a un point, c'est qu'en France, on ne se rend pas compte forcément à quel point l'avocat est quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Il peut avoir des compétences commerciales, s'il a fait aussi une école de commerce, il peut souvent avoir des compétences psychologiques, ne serait-ce que par son expérience. Il est pas rare que les avocats aient des doubles diplômes ou des triples diplômes, etc. Et on se contente souvent de les caser sur le contentieux, alors qu'en réalité, si vous regardez comment ça se passe à l'étranger, je dirais que la spécificité américaine, c'est pas tellement que les avocats sont également des négociateurs. C'est qu'ils peuvent même être des dirigeants. On n'hésite pas aux États-Unis à placer un avocat comme PDG, alors qu'en France, un avocat, c'est pour qu'il rentre dans une direction juridique et peut-être qu'il devienne directeur juridique. Moi, je trouve ça dommage et il faut réhabiliter de ce point de vue la capacité de l'avocat à aborder les dossiers sous plusieurs angles, ce qui fait que c'est pas tellement que c'est un bon conciliateur, c'est surtout que lui va avoir un point de vue que ses clients ne peuvent pas avoir.
Mais je crois qu'Olympe, elle est d'accord avec vous.
Ah, mais elle a très envie d'exprimer son avis, surtout.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
C'est déjà devenu un must, c'est l'heure que vous attendez tous, c'est l'heure de la chronique d'Abeline Majorelle.
N'importe quoi. Bonjour, alors aujourd'hui je me fais fort, chers auditeurs, de vous apporter la preuve irréfragable, comme on dit chez les avocats, que le droit c'était pas mieux avant. Évidemment, si l'on compare avec les ordalies du Moyen-Âge, où pour vérifier votre sincérité, on vous trempait la main dans l'huile bouillante, et s'il ressortait intact, la preuve par Dieu était faite de votre innocence.
Je suis innocent.
Voilà. Il faut noter une nette amélioration dès la Révolution française. De même, entre Claude Gueux, homme digne qui, condamné pour vol, finira condamné à mort, pour avoir fait trop usage de son humanité face à l'autorité, il y a quand même une petite marge. Car en 1981, nous avons entendu l'exhortation de Victor Hugo, cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'avez pas besoin de la couper. Et nous avons aboli la peine de mort qui, rappelons-le, est encore en usage dans 93 pays, dont deux dits industriels, les États-Unis et le Japon.
La peine de mort n'existe plus, c'est donc pour vous un progrès, mais qu'en est-il du reste du droit ?
Alors certes, tout le droit n'est pas que le droit pénal, et la difficulté du droit est toujours de contrer cette maxime de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Comme nul n'est censé ignorer la loi, plongez-vous dans les quelques 2000 articles du Code civil que nous avons hérité de Bonaparte, Et je vous conseille d'aller voir une start-up qui s'appelle Doctrine, qui se présente comme le Google du droit et qui permet de référencer non seulement les articles, mais les jurisprudences, et vient d'ailleurs de lever 2 millions d'euros pour se développer, et notamment dans son aspect justice prédictive. N'ayez pas peur, le prédictif n'est juste qu'une indication chiffrée sur la jurisprudence, comme par exemple quels sont les dommages et intérêts moyens, les délais, etc. Mais surtout, si vous voulez prédire la loi, autant la faire, et allez jeter un œil à des initiatives comme celle portée par Benjamin Jean, pardon, et qui s'appelle Open Law, qui s'est fixé comme objet d'engager toute action en faveur de la promotion de la construction d'un droit ouvert. Le but est donc de co-construire le droit, de réfléchir à l'exercice, la place et les pratiques entourant le droit dans notre société numérique. Axel Lemaire, par exemple, avec son projet de loi numérique fondé sur la consultation, est par exemple une autre façon de voir la création d'une loi en faisant participer tous les acteurs au sujet. Hacker la loi, hacker l'Assemblée comme le proposent certains, c'est être acteur de la loi et ne plus seulement la subir. Et ça, c'est une révolution qui est en route et qui fait vraiment que ce n'était pas mieux avant.
Dasha, Daria Blanc, vous pensez que justement on risque de hacker un jour même le métier d'avocat ?
Alors, pardon.
Allez-y. Je me dis, est-ce que vous craignez qu'un jour on hack le métier d'avocat avec toutes ces évolutions qui permettent l'instauration d'un...
C'est très positif en fait cette ouverture du droit de plus en plus vers le justiciable, parce qu'on a l'impression que
l'avocat... Olympe se plaint. Olympe demande justice.
C'est ça, elle demande justice, elle demande que les avocats soient plus accessibles. Mais c'est toute une démarche tant des avocats que du barreau de Paris que de rendre la justice plus accessible, que de rendre les avocats plus facilement, plus proches des justiciables. Après, il y a des initiatives qui, au lieu de hacker le droit, le contournent quelque peu. Donc, on a quelques exemples en ce moment qui sont un petit peu étonnants. Mais autrement...
Comme par exemple, allez-y, dites-nous.
Eh bien, on a un site web qui a tendance à inscrire des avocats qui n'ont pas demandé à être inscrits, qui les notent et qui donnent des numéros surtaxés pour les contacter. Alors qu'il faut savoir qu'un avocat, il suffit de mettre son nom dans l'annuaire du barreau de Paris pour avoir son numéro de téléphone non surtaxé. Donc il y a tout un, il y a disons des espèces de parasites du droit, mais autrement il y a des démarches qui sont extrêmement ouvertes et qui sont très très positives, justement dans cet accès de plus en plus ouvert et de plus en plus simple vers un avocat ou en tout cas vers la justice.
Et vous, les startups type celles dont je parlais, par exemple Doctrine, etc., on a tous, quand on a commencé à faire du droit, admiré et aimé le moteur Légifrance quand il est sorti. qu'est-ce qu'on pense maintenant en fait de ces startups-là, par exemple ?
Mais c'est extrêmement positif. Ça aide énormément tant les étudiants que les professionnels. C'est... ça simplifie ça, en fait, ça, on sort du monopole des grandes maisons d'édition type
Dalloz,
LexisNexis, etc., qui sont de très très très, très très bonnes maisons d'édition, mais qui ne sont pas forcément toujours adaptées. Et là, on a des gens qui ont cette démarche d'ouvrir de nouvelles voies, tant dans les recherches que dans la façon dont on les use en pratique. C'est extrêmement positif, évidemment.
Si on revient sur votre expérience, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre un cabinet plutôt que directement de créer le vôtre ? Parce que on sait que vous avez une démarche d'entrepreneur plutôt, par ailleurs ?
Bien, j'ai eu mon passé d'entrepreneur où j'ai effectivement j'ai eu la chance de pouvoir lancer deux sociétés. Effectivement, j'ai toujours cette envie entrepreneuriale, mais il y a un moment où, surtout en droit des affaires, on doit apprendre un métier. Donc pour apprendre un métier, il faut qu'on ait des dossiers suffisamment diversifiés, il faut qu'on ait des personnes qui puissent nous guider dans ce qu'on fait. Et puis surtout, il y a le temps pour développer sa clientèle, il y a le temps pour développer ses connaissances, son expérience. Et effectivement, on ne se sent pas forcément capable de monter son cabinet tout de suite. Il y a des confrères qui le font et je les admire vraiment. Et c'est très très dur, surtout au début. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas encore le courage, je me laisse 5 à 10 ans.
Est-ce que c'est important, on en parle beaucoup notamment dans les clubs de femmes entrepreneurs, etc. Est-ce que, et on en parlait autrefois avec la notion de maître et d'élève, etc. Est-ce que le mentoring, le fait d'avoir un mentor en droit est toujours important ?
Eh bien, j'ai envie de dire oui. Après, j'ai eu des expériences plus ou moins dures parce que bon, dans le métier, quand on commence, en fonction de l'associé avec lequel on travaille, eh bien, on peut être... très bien formé, mais à la dure. Ou alors, on peut au contraire avoir un patron qui a tendance à un peu nous laisser faire un peu tout et n'importe quoi, ce qui est bien, mais quand on n'y connaît rien, c'est un petit peu compliqué. Mais effectivement, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui puisse nous guider et nous laisser l'autonomie d'apprendre tout seul. Parce que, un avocat, c'est pas quelqu'un qui sait tout. Un avocat, c'est quelqu'un qui est capable de voir une situation, de l'étudier et de la développer dans le sens du client.
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui avec la complexification des lois, des domaines, etc. Puisque en plus, maintenant, nous avons le droit numérique, les droits digitaux qui vont dessus, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'adage hein, qui est « nul n'est censé ignorer la loi »
Bien, il y a deux choses. Il y a le développement du numérique, il y a le développement de la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec l'économie collaborative, avec effectivement le numérique, avec Internet. Ça, c'est extrêmement important que la loi puisse suivre. Parce que si on a un vide juridique, on se retrouve un peu à patauger. Donc c'est passionnant au prétoire, mais ce n'est pas forcément passionnant pour les clients. Après, il y a ça d'une part, et d'autre part, il y a le fait qu'on légifère trop. On légifère sur tout et sur n'importe quoi. La loi, en principe, est censée être suffisamment générale pour pouvoir s'appliquer à pratiquement tous les cas, en tout cas les cas, les cas par exemple en droit commercial ou autre. Mais si on commence à légiférer sur tout et sur n'importe quoi, on a des lois très lourdes, très compliquées, et on est face à des, par exemple, des entrepreneurs, typiquement, qui veulent monter une boîte, qui veulent développer, prendre des salariés, mais qui ne savent pas ce qu'ils font et qui se retrouvent à aller contre la loi, à violer cette loi qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas connaître parce qu'il y en a trop.
Il y a en France une sorte d'image de l'avocat qui est l'avocat homme politique. Je pense à François Mitterrand, je pense à Robert Badinter, mais il y en a beaucoup d'autres, même Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est encore une image puissante aujourd'hui dans le métier d'avocat, Jean-Baptiste Souffron par exemple ?
Oui, il faut dire que le métier d'avocat a la chance d'avoir de nombreuses passerelles qui permettent à des gens d'exercer cette profession après avoir fait quelque chose auparavant. Ce qui rejoint d'ailleurs ce que je disais avant en disant que c'était une profession pluridisciplinaire. Donc, c'est quand même assez intéressant. Vous avez un métier qui vous est accessible. Pour beaucoup d'hommes politiques, après la politique, ils n'ont parfois pas forcément d'expérience préalable dans le privé. Et c'est vrai que la passerelle peut se justifier dans de nombreuses situations où ce qu'ils ont appris dans leur vie politique, ils vont pouvoir le réexploiter. Par exemple, en matière de droit administratif, en matière de compréhension de certains mécanismes du droit privé, etc. Et c'est plutôt utile, c'est plutôt une bonne chose. Moi, ça ne me choque pas du tout. Après, évidemment, il ne faut pas non plus l'étendre à tout et n'importe quoi tout le temps. Il est bon également qu'il y ait des contrôles quand même qui soient faits sur la qualité ou sur le niveau des compétences avant de pouvoir exercer la passerelle. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à peu près fait.
L'un et l'autre, vous êtes prêt à devenir ministre alors ?
Non, je crois qu'on a une future petite ministre là qui,
oui,
qui est beaucoup plus motivée.
Je pense qu'Olympe sera une excellente ministre.